37. Élise. Je n'ai pas de gland depuis 2 jours. C'est inhabituel. Je frappe à la porte de Madame Di Francesco. Elle ne répond pas. J'insiste. J'interpelle Monsieur Lapin, qui rentre à cet instant un guéridon à la main.
« Je suis bien content qu'elle ait arrêté ses blagues minables, » déclare-t-il. « Les policiers n'ont jamais voulu prendre ma plainte. Ils ont affirmé que les carottes ne représentaient pas une menace sérieuse. Pourquoi vous riez ?»
Je n'ai pas pu me retenir. Il s'engage dans l'ascenseur, m'ignorant quand je lui glisse que c'est inquiétant. Je reste en bas plus d'une heure, je questionne tous les voisins que j'y croise. Personne n'a d'informations, et tout le monde s'en moque. Je m'apprête à monter lorsqu'une femme que je ne connais pas entre dans le hall et se dirige vers la porte de l'appartement du rez-de-chaussée. Elle extirpe un trousseau de clés de son sac et, une à une, tente de les insérer dans la serrure. Je m'approche d'elle. Elle sursaute. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. »«
J'ai la phobie des chiens, »
fait-elle en fixant Édouard. « Vous connaissez Madame Di Francesco ?»«
C'est ma tante. Elle est à l'hôpital, elle s'est cassée le col du fémur. » Je viens lui chercher quelques affaires.
Elle va y rester longtemps? Une clé glisse sans fin dans la serrure. La porte s'ouvre. La nièce s'engouffre dans l'appartement tout en poursuivant la conversation. Je pénètre dans l'entrée. C'est un véritable capharnaüm. Sous la lumière tamisée, les tapis semblent avoir été jetés là au hasard. Des cadres de toute taille envahissent les murs. Un enchevêtrement de fils court le long des plinthes. Les livres s'empilent à même le sol et le buffet est jonché de boîtes pleines de glands, cailloux, rondelles de carottes, clous, brindilles de bois et de post-it. Je dois réfléchir quelques secondes pour comprendre que ces derniers sont destinés à la famille Lacolle, du deuxième.
Une ou deux semaines, ensuite elle ira en maison de repos le temps qu'on lui trouve une place en EHPAD.
Elle ne reviendra pas ? La nièce sort de ce que je suppose être la chambre de Madame Di Francesco, une pile de vêtements sur les bras.
Non, ce n'est plus possible. Ça fait un moment qu'on veut la placer avec ma sœur. Elle perd la boule, elle oublie de prendre ses médicaments, de manger. Il faut qu'elle soit prise en charge. Elle n'est pas contente, mais c'est comme ça. Il a vraiment une drôle de tête, votre chien.
Je rentre chez moi, le cœur serré. Je n'éprouvais pas une affection débordante pour ma voisine, mais la savoir contrainte de quitter son foyer m'attriste. J'ai vécu 10 ans à quelques mètres d'elle. Certains locataires la côtoient depuis plusieurs décennies. Je me suis habituée à elle. J'attrape une feuille et un marqueur, écris une note à l'attention des habitants de l'immeuble et descends l'accrocher dans le hall. Madame Di Francesco, de l'appartement 3, part vivre en maison de retraite. Et si nous lui offrions un cadeau de départ? Si vous souhaitez participer, merci d'écrire votre nom ci-dessous. Élise Duchesne, appartement 47. En remontant chez moi, je reçois un message de Thomas. Il a trouvé une famille pour Édouard. 38. Lily. À mon arrivée ce matin, j'étais attendue par une bonne nouvelle. Fini la table chauffante. Tu es désormais dans un berceau simple. Ton corps parvient à réguler sa température. À chaque nouveau progrès, c'est comme si tu soufflais sur le brouillard. Je vois demain plus nettement. Je me détends, même si je ne suis pas totalement sereine. Je me méfie du bonheur. La facture est trop salée. Il débarque chez toi, il pose ses valises, envahit l'espace, le moindre recoin. Il est plaisant, de bonne compagnie. Alors on s'y habitue, on s'y attache. Il devient indispensable. Et puis, brusquement, un jour, il disparaît. On rentre et il est parti, laissant la porte ouverte et le malheur mettre ses pieds sous la table. Quand la psychologue est arrivée, ton papa était présent. Il a entrepris de quitter le box, elle l'a retenu. Comment allez-vous ? Il lui a parlé de la bonne nouvelle. Elle était ravie, mais pas dupe. Vous ne restez pas ?
Je pensais que vous vouliez vous entretenir avec ma femme.
Pas forcément. Si vous le souhaitez, je peux vous écouter. C'est compliqué pour les pères aussi. Ils ont tendance à vouloir tout gérer, pour diverses raisons. Parfois parce qu'il occupe une place particulière dans l'inconscient collectif, c'est la maman qui reçoit le soutien, les marques d'affection. Il arrive que les papas se sentent mis de côté. Il a répondu que ce n'était pas son cas. Puis, il a réfléchi quelques secondes et a ajouté
On est entourés tous les deux. Je ne me sens pas mis de côté par nos proches. Mais parfois...
Il s'est interrompu. Avec son sourire, Eva l'a encouragé. Il a repris sans me regarder.
Parfois, je me sens un peu mis de côté par Lily.
J'ai pris la phrase en pleine face. Uppercute. Il a poursuivi d'une voix douce. En ce moment, à part la petite, rien ne compte pour elle.
C'est normal, je ne lui reproche pas. Mais la vie continue de tourner en dehors de la néonate. Je fais tout pour qu'elle n'ait rien d'autre à faire que s'occuper de notre fille. Je travaille, je fais les courses, je gère des papiers, je nourris le chat, je donne des nouvelles aux gens. Je suis épuisée et j'ai l'impression qu'elle ne le voit pas.
J'ai repris mon souffle. La psy me dévisageait en silence. J'avais le sentiment d'être au tribunal. Bien sûr que je le vois. Je n'arrête pas de te demander comment tu te sens et tu m'assures que tout va bien. Pourquoi tu ne le dis pas ?
Je te le dis, là.
Je n'ai pas insisté. La manie qu'a ton papa de garder son ressenti pour lui est l'un de nos principaux sujets de discorde. Il fait taire ses contrariétés, ses colères, ses reproches. Il les enferme dans une petite boîte où ils s'accumulent, se nourrissent les uns les autres. Et un jour, la boîte explose. La déflagration a déjà failli nous être fatale. Peut-être que tu aurais pu me le dire en tête-à-tête ? Eva est intervenue. Vous savez, les couples sont souvent déstabilisés par l'arrivée d'un enfant. Il n'est pas rare qu'ils se séparent dans l'année suivant la naissance. C'est un grand chamboulement de ne plus être la personne la plus importante pour l'autre. Si l'on ajoute les complications que votre fille a connues, c'est un ouragan. Les épreuves partagées sont les plus difficiles à surmonter, car tous les individus concernés sont fragilisés et chacun a une manière personnelle de réagir. Cela crée forcément des frictions. J'ai pensé à notre besoin de nous toucher sans cesse et j'ai rétorqué « J'avais l'impression qu'au contraire, ça nous avait soudés. » Il a soupiré. « Il faut toujours que tu exagères. C'est pas parce que j'ose avouer que je me sens un peu mis de côté qu'on n'est pas soudés.
Je veux juste te dire que, maintenant qu'on est rassuré, tu pourrais, par exemple, passer un peu de temps à la maison. La vie continue dehors. »
J'entendais le besoin de présence de ton papa. J'aurais aimé autant d'empathie de sa part. Il est la seule personne capable de me blesser au point de me faire oublier ma peur des conflits. Dans ces cas, j'ai pour sale manie de renvoyer les reproches à leur expéditeur, avec si possible une petite pointe de mauvaise foi. Peut-être que je serais plus souvent à la maison si je ne risquais pas de tomber sur ton père en slip. Il a ricané.
Heureusement que mes parents sont là. Je sais pas comment je ferais pour tout gérer sans eux.
Tu m'étonnes. J'imagine que ta mère t'a donné le sein jusqu'à ta majorité. Je parlais d'une voix calme, mais dans mes veines, c'était l'ébullition. Je lui en voulais d'avoir déclaré la guerre. Mais c'est à moi que j'en voulais le plus, de ne pas avoir cessé le feu. Comme à chaque fois que je me sentais attaquée, j'allais trop loin. Je m'en rendais compte au fur et à mesure que les mots franchissaient mes lèvres, pourtant je n'arrivais pas à les retenir. Il a grogné.
Elle, au moins, elle ne lâche pas tout au premier obstacle.
Oh, elle en serait incapable,
j'ai ironisé.
Tu as une maman parfaite, mon amour.
Il a ouvert la bouche, pris une inspiration, puis s'est ravisé. On se défiait du regard. Je savais ce qu'il avait envie de me hurler. Je savais la phrase qu'il retenait. Je voyais ses mâchoires se contracter et je priais mentalement pour qu'il n'ose pas aller si loin.
La psychologue s'est mise à parler de la colère, qui était souvent révélatrice d'autres émotions, comme la tristesse ou la peur. Je l'écoutais en songeant qu'elle avait sans doute raison, que la fatigue et l'angoisse des dernières semaines exacerbaient la moindre contrariété. J'essayais de recouvrer mon calme en te caressant le bras. Je ne voulais pas que tu sois contaminée par l'agressivité ambiante.
Ton papa fixait le sol, les sourcils froncés. Eva est intervenue. Il est toujours préférable de dire ce que l'on ressent plutôt que de faire des reproches. Je ressens plutôt que tu as fait ça. Peut-être pourriez-vous tenter de formuler ainsi ce que vous éprouvez ? C'était l'occasion de désamorcer la situation. Elle s'est tournée vers moi. Je devais commencer. J'ai pris une longue inspiration et j'ai retiré mon armure. Je me suis sentie blessée, mais je comprends ce que tu as voulu dire. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à elle, mais je vais faire un effort. Si tu y tiens, je peux rentrer plus tôt le soir. La psychologue a accueilli mon pas d'un hochement de tête. Ton père a posé son regard sur moi. Il m'a dévisagée longuement. J'ai souri, J'ai cru qu'il allait sourire aussi. Mais non. Il s'est levé sans un mot et il est parti.